SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Le trésorier fédéral indique que le prochain budget mettra l'accent davantage sur la croissance que sur la lutte contre l'inflation. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 24 mars prochain, avant la fin du mandat du président Macky Sall. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec échappent de justesse à une frappe d'un missile russe à Odessa. Le trésorier Jim Chalmers lance un avertissement de ne pas prendre à la légère la perte de vitesse de l'économie nationale et a déclaré que la lutte contre l'inflation ne serait pas le seul objectif du prochain budget fédéral. En effet, les chiffres de croissance faible publiés hier ont révélé que l'économie n'avait augmenté que de 0,2% au cours du trimestre de décembre. Monsieur Chalmers affirme qu'il n'y aura pas de changement radical dans la réduction de l'inflation, mais que la croissance lente doit être également prise en compte. Il a précisé en outre que ce n'était pas encore mission accomplie en ce qui concerne l'inflation.
What I'm trying to convey is that the balance of risks is shifting in our economy from what was almost a sole focus on inflation, successful focus, seeing the way that inflation is moderating. And now we're in kind of trickier terrain when it comes to balancing those pressures in our economy. The degree of difficulty in the third budget is different to the degree of difficulty in the first two.
Le parti travailliste fédéral a défendu ses investissements dans des projets d'énergie renouvelable suite à l'annonce qu'un important parc éolien en mer sera réduit à un cinquième de sa taille initiale. La zone de l'océan Austral, située à une vingtaine de kilomètres au large du Victoria, près de la zone industrielle de Portland, ne couvrira que 1030 km², alors que le plan initial avait prévu qu'il s'étalerait sur une superficie de plus de 5000 km². Cette révision à la baisse fait suite à des consultations environnementales et marines qui ont soulevé des préoccupations concernant la perte d'habitat. Le ministre fédéral du changement climatique et de l'énergie, Chris Bowen, a déclaré à la ABC à Melbourne qu'il continue de privilégier l'énergie solaire et éolienne par rapport à d'autres sources d'énergie.
Solar is now the cheapest form of energy that's ever been available to humankind. So that's a massive opportunity. Onshore wind, the price does move around, but again, the cost curve is positive. The only thing where the cost continues to go up and everything continues to get harder is nuclear.
Les défenseurs des Premières Nations au Victoria ont vivement critiqué les conditions décrites dans un rapport de l'Ombudsman du Victoria sur les soins de santé en prison. Le rapport a révélé que le manque de participation des peuples autochtones aux politiques de santé a un impact dévastateur non seulement sur leur santé physique et mentale, mais aussi sur leur bien-être culturel et spirituel. Le service juridique aborigène du Victoria affirme que le vécu des prisonniers montre que le gouvernement ne respecte pas ses engagements en matière de traité des réductions des inégalités en ne fournissant pas des services culturellement sûrs. Des recommandations du rapport visent à garantir une plus grande participation des peuples autochtones dans les prises de décisions en matière de santé. Au Sénégal, le premier tour des élections présidentielles pourrait se tenir le 24 mars 2024, soit dans 2 semaines et demie. Le Conseil constitutionnel sénégalais a en effet estimé que le scrutin devait se tenir avant le 2 avril, date de fin de mandat du président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a aussi demandé d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Dans un communiqué publié hier, on apprend que le chef de l'État sénégalais a fixé la date du premier tour de la présidentielle au 24 mars. Ce, après plusieurs semaines de crise politique qui ont suivi le report du scrutin initialement prévu le 25 février. Explication de cette tournure, Magali Lagrange pour RFI.
Le Conseil constitutionnel sénégalais a estimé que le scrutin devait se tenir avant le 2 avril, avant la date de fin du mandat de Macky Sall et non pas le 2 juin. Dans un communiqué ce soir, on apprend que le chef de l'État a fixé la date du premier tour de la présidentielle au 24 mars. Le Conseil constitutionnel lui proposait une autre date avant la fin du mois également, mais pas le 24 mars. Autre sujet sur lequel s'est prononcé le Conseil constitutionnel sénégalais, les candidatures. Il estime que la liste de 19 candidats déjà validés avant le report de la présidentielle le mois dernier ne doit pas être modifiée. Pour rappel, le Conseil avait été saisi par le président pour se prononcer sur les préconisations du dialogue de la semaine dernière. Par ailleurs, le gouvernement au Sénégal a été dissous. Ce soir, le Premier ministre Amadou Ba, libéré de ses fonctions pour battre campagne en vue de l'élection. Selon la présidence, il est remplacé par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba.
En France, Emmanuel Macron recevra aujourd'hui les chefs des partis à l'Élysée pour aborder la question ukrainienne avant un débat le 12 mars à l'Assemblée et un autre débat le 13 au Sénat. Comme nous explique Valérie Gass, le chef d'État veut éveiller l'opinion sur les enjeux en France de la guerre en Ukraine.
C'est la séquence Ukraine acte 2 pour Emmanuel Macron. En rencontrant les chefs de parti français, le président engage le volet politique de sa stratégie de remobilisation autour de la guerre en Ukraine lancée depuis la visite du président Zelensky en France et la conférence sur l'aide à l'Ukraine organisée à Paris, à l'issue de laquelle il avait mis les pieds dans le plat en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes sur place. Une manière de remettre le dossier ukrainien au cœur du débat européen et national dans un agenda qui ne doit rien au hasard. Dans 3 mois, il y a les élections européennes et à entendre une élue de la majorité, pour la première fois, on va toucher le quotidien des gens dans cette campagne, car la guerre remet au premier plan les questions de souveraineté, de défense, d'énergie. Un ministre explique lui aussi qu'il faut mettre le débat autour de ce scrutin au bon niveau, la guerre ou la paix, notamment en posant la question au Rassemblement national de savoir s'il veut la victoire de la Russie ou pas. Emmanuel Macron renfile donc son costume de chef de guerre et de campagne.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont échappé hier de justesse à une frappe de missiles russes alors qu'ils effectuaient une visite en mer Noire. L'attaque contre le port d'Odessa s'est produite à environ 500 à 800 mètres de l'endroit où se trouvaient les deux dirigeants et leurs délégations respectives. Le président Zelensky a déclaré aux journalistes que l'attaque était si proche qu'ils ont pu la voir de leurs propres yeux. Et selon la marine ukrainienne, cette frappe russe a coûté la vie à 5 personnes. Les rebelles houthis du Yémen ont lancé des missiles contre un navire commercial dans le golfe d'Aden. Cette attaque aurait coûté la vie à 2 membres d'équipage et en a blessé 6 autres. C'est la première frappe mortelle dans une campagne d'attaque menée par les houthis en réponse à la guerre d'Israël dans la bande de Gaza. Les 2 décès ont été confirmés par des responsables britanniques et américains. Le porte-parole militaire houthi, le général Yahya Saria, affirme que l'équipage du navire a ignoré les messages d'avertissement avant la frappe.
The Yemeni armed forces persist in upholding their religious, moral and humanitarian duties in supporting the oppressed Palestinian people, and their operations in the Red and Arab Seas will not stop until the aggression stops and the siege on the Palestinian people in the Gaza Strip is lifted.
Et l'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice, la CIJ, de prendre des mesures d'urgence supplémentaires contre Israël pour prévenir la famine à Gaza. Dans sa demande, l'Afrique du Sud cite une famine généralisée dans l'enclave dévastée et affirme qu'Israël viole les mesures déjà imposées par la Cour. En janvier, la CIJ a ordonné à Israël de s'abstenir de tout acte pouvant relever de la Convention sur le génocide et de veiller à ce que les troupes israéliennes ne commettent aucun acte génocidaire contre les Palestiniens. Le blocus presque total d'Israël sur Gaza et les combats en cours ont rendu presque impossible la livraison des fournitures essentielles. Le coordinateur humanitaire pour les territoires palestiniens occupés, James McGoldrick, affirme que la faim a atteint des niveaux catastrophiques, plus particulièrement dans le nord de Gaza.
Their children are now, as we see in the images on the media, who are dying of hunger-related diseases. And in order to prevent that from happening, we have to have a plan that allows us to you know, prevent famine, that we need to significantly scale up the humanitarian assistance in there. And we have to get up at least 300 trucks a day. Right now, we're lucky if we're getting about 150.
Et selon les organisations humanitaires, 300 000 personnes vivent encore à Gaza, dans le nord de l'enclave, et la plupart d'entre eux sont obligés de manger du fourrage animal pour survivre. Et retour en Australie, où les uniformes officiels de l'équipe olympique australienne ont été dévoilés. Chaque uniforme vert et or incorpore des imprimés autochtones signés Paul Fleming, qui appartient au peuple Yugera, et David Bosun, qui lui est un artiste originaire du détroit de Torres. Écoutons Anna Mears, quadruple championne olympique de cyclisme et chef de mission de l'équipe australienne.
When you consider how many sports and different types of bodies and athletes that those sports create and present, weightlifters, cyclists, runners, gymnasts, volleyballers, there's an immense amount of ability required to be able to make it unique to each sport and to each athlete, because not only do we want them to look good, we want them to feel good, because when they feel good, they go good.
On précise qu'entre 460 et 480 athlètes australiens devraient composer l'équipe nationale olympique. Ils participeront dans 30 sports. Un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays. Perth, 35 degrés. Adélaïde, 33. Melbourne, 23. Hobart, 22. Canberra, 29. Wollongong, 25. Sydney, 27. Newcastle, 29. Brisbane, 29. Cairns, 32. Et Darwin, 32 degrés. Place à présent au rappel des principaux titres. Le trésorier fédéral indique que le prochain budget mettra l'accent davantage sur la croissance que sur la lutte contre l'inflation. Au Sénégal, la présidentielle pourrait se tenir le 24 mars prochain avant la fin du mandat du président Macky Sall. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec échappent de justesse à une frappe d'un missile russe à Odessa.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.